L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Bonsoir à tout le monde, premier numéro de 2013 pour Handicap Tribune, avec du retard dû à des petits soucis techniques de voiture pour nos invités, et puis des petits soucis aussi qui se sont perdus quelque part dans la friche, il a fallu aller les récupérer. Oui, oui, parce qu'effectivement, oui, c'est... on va commencer tout de suite par une pause justement en relation avec notre sujet du jour. Et puis, j'espère que on pourra après continuer. Voilà. Autour de nous, on a donc Gérard et Dominique. Mais on les interviewera plus tard. Pour l'instant, la première pause donc avec Francesca Soléville et le titre Philippe.
200 mètres avec Sico 68.
Sur la ligne de départ. 3 blancs, 5 noirs. 3 blancs, 5 noirs. Sacré damier. Ils ont tendu leurs bras, ils ont levé leur tête au bout de ce couloir étroit, le cœur dément comme une bête lourde, 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 lourde. Regarde devant toi. Pour une fois, il ne faut pas baisser les yeux. Comme elle est courte, cette piste, il faudra l'avaler d'un coup. Il faudra prendre tous ses risques, il faudra foncer comme un fou. Il faudra voler comme un dieu, il faudra gagner cette course. Tu seras le plus grand de tous. Sourd, 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 sourd. Ils sont 8 dans la course au départ. 3 blancs, 5 noirs, 3 blancs, 5 noirs, sacré damier. Ils arrachent leurs bras, ils projettent leur tête au bout de ce couloir étroit, dans les cris de la foule en fête. Cours, 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 cours. Regarde devant toi, va plus vite que les chiens noirs, que dressent les policiers blancs, à courir sus à des enfants. N'y pense pas, n'y pense pas, ne te désunis pas. Allonge la foulée, elle est si proche l'arrivée, elle est facile cette course, et tu es le plus grand de tous. Cours, 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 cours. Ils sont 3 sur la ligne d'arrivée. Un blanc, 2 noirs, un blanc, 2 noirs, sacré damier. Ils rejettent leurs bras, ils relèvent la tête, le cœur bas et le cœur bas. On est le monde, on est prophète. Souris, 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 souris. Regarde autour de toi, pour une fois, il ne faut pas baisser les yeux. La foule hurlait à Oxford Town et la foule hurlait à Selma, comme elle hurlait à Little Rock. N'y pense pas, n'y pense pas. Aujourd'hui, tu es plus qu'un dieu. Il n'y a pas de chien pour toi, mais les bravos et les vivas. Souris, 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 souris. Smile, good boy. Ils sont 3 sur les marches de la gloire. Un blanc, deux noirs, un blanc, deux noirs, sacré damier. Ils ont baissé le front, vêtus de noir. Ils ont dressé leurs poings, gantés de noir. Et je sais qu'à cet instant-là, moi j'étais fière, moi je fus noire.
Voilà, c'était donc Francesca Soléville, 200 mètres, Mexico 68. Voilà, une chanson pour introduire donc nos invités.
Oui, tout à fait, donc Gérard Barras et Dominique Guinde. Alors, parce qu'en fait, ces deux-là vont partir avec quelques autres faire quoi? Le Marathon des Sables, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors donc c'est une course à pied, hein, et puis qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus?
C'est une course mythique, on va dire ça, et donc c'est pour ça aussi un petit peu qu'on a fait, pour un petit peu montrer que des personnes un peu différentes peuvent faire du sport, pratiquer du sport à un certain niveau aussi, jusqu'à même un bon niveau. Et donc, voilà, c'est aussi interpeller les pouvoirs publics aussi, quelque part, que le monde du handicap est là et qu'ils ont besoin de qu'on les aide, qu'on les amène, parce que Gérard, il ne peut pas y aller tout seul. Voilà.
Oui, puisque donc Gérard est malvoyant, hein, c'est ça, hein?
Oui, je suis déficient visuel, effectivement. J'ai une maladie génétique qui est une rétinite pigmentaire. Donc, c'est vrai, fortement malvoyant, presque non-voyant, on va dire. Je n'utilise plus que les lumières. Tout le reste a disparu, on va dire.
Et donc, tu pars dans combien de temps et où exactement?
Je ne sais pas si je vais partir, mais effectivement...
J'espère que oui, quand même. Tu t'entraînes pour,
oui,
en
oui,
tout
cas. Oui, je m'entraîne pour. Effectivement, la course commencera le début avril. Je crois que c'est le 5 ou le 6 avril. On part pour une semaine dans le désert. Voilà, dans le désert du Maroc, dans le sud marocain, on va dire. C'est un périple à peu près de 255 kilomètres. Ça sera échelonné sur plusieurs étapes. Chaque étape sera divulguée aux coureurs la veille. On sait à peu près que là, les premières étapes font 35 km à peu près, la deuxième 33, la troisième une trentaine, la quatrième étape fera à peu près 88 km, la cinquième sera 42 km, et la dernière c'est une petite de 20 km. Tout ça dans le désert. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit.
88 km,
oui, c'est exact. Tout ça dans le désert, avec du sable, des cailloux, de la roche. On monte les plus grosses dunes du désert, on les redescend forcément. Effectivement, le terrain est meurtrier en temps normal, mais alors pour moi, il est encore plus.
Et là, tu te prépares comment à ce genre d'épreuve?
Alors, je ne sais pas si finalement, si la préparation est meilleure que la course, je ne sais pas. Mais la préparation est très dure, c'est-à-dire tous les jours, il y a la course à pied, tous les jours. J'effectue minimum de 2 heures par jour de course. Il y a des étirements, on va dire un quart d'heure. Il y a un peu de musculation, on va dire à vol d'oiseau, on tient 1 heure de musculation avec des petites haltères pour me fortifier un peu le dos. Et après, il y a surtout une bonne heure de relaxation, de détente, pour travailler mon mental, car je pense que c'est la chose la plus importante dans la course, c'est le mental, parce qu'on va être secoué.
Ben oui, parce que quand même, le Sahara, c'est un désert. Dans le désert, il n'y a pas grand monde. Et puis, les dunes, tout ça. Et puis, la longueur des étapes, quand même. Hein, ça fait combien d'heures de course, à peu près?
Alors, en principe, les 30 km, on les fera à peu près, je pense, dans les 6 heures. À peu près, à l'oiseau. Les 88, j'espère les faire dans 20 heures. À peu près aussi. Un marathon, en temps normal, je fais entre 3h30 et 4 heures. Ben là, je ferai le double. Voilà, en gros, c'est ça.
Alors, juste un petit mot, je peux rajouter pourquoi le double? Parce qu'on va avoir un sac à dos sur le dos de 12 kilos, donc, puisqu'on est en autonomie complète. Et donc, il y aura le sac de couchage, il y aura le manger sur des 6 jours, hein, en fait. Et puis, il y aura nos effets vestimentaires de rechange, alors, pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas trop s'alourdir. Il y aura l'eau. Une petite trousse quand même de minimum de secours et voilà, donc c'est pour ça que donc on sera pas sur des moyennes de 11-12 km heure voire 13 quand on est en pleine forme, on sera plutôt sur du 6 km heure, hein, quelque chose comme ça, voilà, en moyenne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va mettre un certain temps.
Et toi, Dominique, tu pars, donc tu guides Gérard, et tu es le seul guide sur cette course ou...
Alors, je suis la guide, voilà, on va dire référente, et les autres seront là en cas de coup dur, parce qu'on veut aller jusqu'au bout. Pour Gérard, pour la vocation de l'association
à laquelle on va en parler après la seconde pause de l'association pour laquelle vous courez.
Voilà, à laquelle on court. Donc voilà, et puis soutien moral aussi des filles qui sont très joviales, très contentes. Et puis elles, ce sont des coureuses mais qui ne connaissent pas le monde du handicap. Et donc à travers moi, ben, je leur ai fait découvrir Gérard, un des handicaps, hein, puisqu'il y a d'autres personnes handicapées, mais voilà, déjà de voir ce que peut vivre une personne non-voyante ou malvoyante, eh ben, c'est pas si évident que ça, et donc ils auront l'occasion de le vivre. Mais par contre, je pense qu'il faudra que je reste avec lui le plus longtemps possible. Et pas être trop les unes à côté des autres parce que ça peut faire des interférences. On l'a déjà fait, on a testé un petit peu sur les entraînements. Et comme la concentration chez vous, elle est énorme, ça demande beaucoup d'énergie. Donc ça demanderait encore plus d'énergie si une autre personne en même temps parlerait et tout ça. Donc il faut quand même s'économiser.
Mmh. Voilà. Et tu disais, Philippe, tu voulais dire
Vous êtes relié comment entre vous deux?
Alors au départ, on est relié avec un élastique, mais là c'est fini, on a passé le cap de l'élastique, maintenant on travaille au mental, c'est-à-dire on est côte à côte. D'accord. La voix, et en principe on réagit assez, on est tellement bien en symbiose, je pense qu'on peut appeler ça la symbiose, et on est tellement bien entraîné, on s'entraîne assez souvent justement pour ça, on est connecté directement.
C'est fou, hein.
C'est fou, oui. Mais c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine, parce que ça fait quand même 2 ans ou 3 ans qu'on court ensemble, et surtout qu'on court ensemble. Donc, j'ai l'habitude, elle a l'habitude, on sait comment on fonctionne, on sait elle sait surtout les obstacles qu'il faut me signaler. Il y a des obstacles, c'est pas la peine de me signaler, mais il y en a qu'il faut signaler.
On va faire une seconde pause, puisqu'on a fait... La fête ce week-end à Marseille, on vous a trouvé une petite pause concernant la fête justement.
La fête et plutôt moi je parlerai dans notre quartier, en tout cas c'était le cas, un petit peu l'absence de la fête. Hein, je veux dire, bon ils ont fait, d'accord, on a eu une belle fête par été en hypercentre au Vieux-Port et
sur la Canebière,
etc.
Et après, c'est vrai que dans les quartiers périphériques,
ne serait-ce que la plaine, il n'y avait pas grand-chose de visible.
Paraît-il.
Voilà, alors donc, j'ai choisi donc Juliette Gréco avec La fête est là.
Toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire, assiette au beurre, route au tampon, boutique de bois, la fête est là. Qui s'installe en colimaçon, on y est chez soi, centrala la 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 la. Visez la baraque des lutteurs, les biceps sont à la parade. Allez-y donc, les amateurs, les filles aiment bien la rigolade.
La 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 la.
On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire, la femme poisson et la femme tronc, elles prennent la vie par-dessus la jambe, et pour 20 balles donnent l'illusion que c'est une vraie corvée d'être un gambe. La 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 la. Y'a les manèges qui tournent en rond, y'a les jupons qui volent au vent, y'a les durs qui font un carton, y'a les moufis, regarde tout content. La 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 la. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire. Tard dans la nuit, on plie boutique, les roulottes s'en vont tranquillement au long des routes chaotiques, distraire d'autres bonnes gens. À leur place, il y a des papiers gras, des confettis sur le pavé et dans le noir, le bruit des pas d'un couple
Voilà,
la,
donc.
C'était donc la fête élève par Juliette Gréco.
Donc, oui, ben, on peut en parler un petit peu là, de cette fête, parce que Monsieur Maras me disait hors antenne qu'il y avait quand même des choses prévues pour les personnes handicapées, contrairement à ce que j'avais l'air de penser, qui ont été faites quand même. Il y avait des points d'accueil apparemment samedi soir pour accueillir les gens qui... Et pour les diriger ensuite dans la cohue de la fête.
Il y avait 10 points d'accueil. Je crois qu'il y avait minimum 4 personnes par point. Il y avait 2 bénévoles, un membre de la division des personnes handicapées. Et il y avait 2 jeunes d'Unicité.
Le problème étant que peut-être les informations ont été divulguées assez tard aux associations et du coup, c'était assez compliqué de s'organiser voilà. et de participer vraiment. Quoi.
C'était pas très évident de les trouver parce que dans la foule, effectivement, les grands panneaux lumineux, c'était pas évident.
Et surtout pour les déficients visuels.
Et surtout pour les déficients lumineux. Je suis passé à côté 2 fois, je l'ai manqué. Hein, je
pense pas, mais c'est bon. Sûr que les gilets rouges et les panneaux lumineux, pour des personnes qui voient pas, c'est un peu compliqué.
Mais on n'est pas tombé dans le vieux port, c'est déjà pas mal.
C'est déjà ça. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Par contre, c'est vrai que c'était assez difficile de circuler, paraît-il, d'après.
Ouais, c'était galère.
Et après, le lendemain, c'était pareil pour la chasse au trésor. Il y avait des accueils aussi pour
Alors,
les personnes.
Là, je ne sais pas. La chasse... Je restais couché le lendemain. Je ne me suis pas remis, d'ailleurs. C'est pour ça. Mais je pense qu'il devait y en avoir aussi, puisque ça avait été prévu la veille.
Mais ce qui était dommage, c'est qu'en fait, les informations sur le site de Marseille 2013, qui n'est pas quand même un site super accessible, et le souci, c'était surtout qu'il fallait pointer sur une carte pour pouvoir connaître les points de départ de ces chasses au trésor. Et du coup, il n'y avait aucune alternative possible pour les personnes qui étaient incapables de pointer sur une carte. Donc ça aussi, c'est peut-être un peu à revoir s'il y a des choses comme ça, notamment pour la fête de clôture. Il faudrait quand même qu'il y ait des choses qui soient remises d'aplomb. Puis bon, c'est vrai que nous, on n'a pas du tout été contactés par la division des personnes handicapées, je crois, à moins que j'ai laissé passer le message, ce qui est possible aussi. Et peut-être qu'ils nous oublient un petit peu à la Luciole, c'est un peu dommage. Mais c'est le cas depuis assez longtemps, en fait. On n'a pas de rapport direct avec la direction des personnes handicapées. C'est assez compliqué. Et voilà, on est un peu oublié par les newsletters. C'est dommage. C'est dommage. Sinon, mais c'est vrai aussi que les informations sont vraiment arrivées très tard. Et du coup... Bon, ben on va reprendre en ce qui concerne votre course. Là, donc, vous courez, en fait, pas pour votre plaisir personnel, enfin, un peu aussi, certainement pour votre plaisir personnel quand même, sinon vous le feriez pas, mais vous courez aussi dans le cadre d'une association qui va récolter des fonds pour des personnes handicapées, c'est ça? Pour les associations de personnes handicapées.
Cette association, elle est toute jeune, hein. Elle vient de naître puisqu'elle est née en mai 2012 et elle s'appelle Je cours pour toi. En fait, ce sont des gazelles qui l'ont créée. Gazelle pourquoi ? Parce que ce sont des coureuses, des personnes qui font beaucoup de trail ou de marathon. Et donc, on s'est mis ensemble et on a dit ben, qu'on allait courir, faire des courses solidaires. Donc, entre guillemets, ramasser des sous. Et puis, cet argent-là, eh ben, la redistribuer à des associations qui nous semblent des associations intéressantes avec des projets intéressants. Et donc, on a commencé par mon association qui s'appelle La Vie Sourire, qui est basée sur Marseille. Et donc, qui fait pratiquer de l'aviron. Je suis le seul club en France à faire ce genre de choses au niveau de l'aviron. C'est-à-dire que j'ai mis à disposition un brevet d'État spécialisé et qui permet aux jeunes personnes handicapées, jeunes et moins jeunes, attention, de pratiquer cette activité-là.
Donc, sur des bateaux spécifiques ?
C'est sur des bateaux. Alors, les non-voyants, il n'y a pas grand-chose à vous modifier. Il y a juste au niveau des avirons à un petit peu modifier pour que vous sachiez quand la palette est à plat ou perpendiculaire. Il vaut mieux. Et puis, autrement, bah oui, les bateaux qu'on est obligé de vraiment mettre adaptés, disons, ce sont les personnes en fauteuil, hein, ou les tétras ou les paraplégiques. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le matériel n'existe pas depuis longtemps, hein, puisque moi quand j'ai commencé en 2003, n'y avait pas de matériel, donc bon, au début, j'ai c'est ce qu'on peut dire galéré.
C'est le cas de le dire, voilà. Parce qu'on est sur Radio Galère.
Et puis bon, après, on a trouvé des astuces. Et puis, ben, il faut dire que certaines personnes bien intentionnées ont trouvé que peut-être il y avait de l'argent à se faire. Donc, d'un coup, des bateaux spécifiques sont sortis. Et voilà. Donc, il y a que des clubs qui ont envie de s'occuper de personnes en situation de handicap. Ils peuvent les acheter parce que c'est entre 5 000, 6 000 euros le premier bateau à avoir 15 000 euros.
Waouh. Oui. C'est pas donné, hein, tout ce qui est adapté, c'est voilà. Toujours pareil. Ça voilà. Coûte énormément cher voilà. Parce que c'est fabriqué en petite série et du coup, forcément, ça revient plus cher.
Voilà.
Et donc, vous pratiquez à Marseille, à quel endroit exactement ?
Alors, je pratique sur deux endroits. Donc, à Marignane, ben, aujourd'hui, j'ai monté le premier championnat régional Open d'Ergo Handi Aviron. Et donc, j'avais sur les 150 inscrits, que ce soit parce qu'on recevait 60 jeunes de l'école des sports de Marignane et 90 personnes handicapées. Hein, ils ont donc, on a mixé ce public-là. Et donc, il y a eu quelques petits malades, donc on en a eu que 120, mais ça s'est très bien passé. La ville de Marignane veut repartir pour ce projet-là.
Mais il n'y a pas la mer à Marignane.
Non, c'est la rivière. Parce que justement, je propose aux personnes handicapées, c'est pour ça que je dis que je suis un peu spécifique, c'est que je leur propose et de l'aviron de rivière, donc à Marignane, et de l'aviron de mer à Corbière, puisque j'ai fait une convention avec la ville de Marseille. Et donc, je monte un projet qui s'appelle Sport Handi Nautique, où on va proposer 5 activités, aviron, voile, canot et kayak, palme masque tuba et escalade pour les personnes handicapées sur 2 demi-journées par semaine du mois de mai au mois d'octobre.
Ah oui, donc ça va faire une belle base nautique, oui, multisport et multi-handicap.
Voilà, et donc c'est aussi une première, je pense, en France. Je pense pas qu'il y ait des bases qui fassent ce genre de choses-là pour ces personnes, pour ce type de public-là. Donc, ben voilà, je pense que ça va être un beau projet. La ville de Marseille est derrière moi.
Donc là, vous êtes sur de l'aviron de loisirs, en fait.
Moi, alors oui, moi je fais de la. Non, je fais. Au départ, oui, on était parti sur de l'aviron de loisirs, et puis il y a eu une demande de compétition, donc on s'est adapté. Donc on fait de l'aviron de loisirs pour ceux qui ont envie, et puis de l'aviron de compétition pour ceux qui ont envie.
Voilà, donc. Et toi, Gérard, vous êtes connu comment en fait ?
À vrai dire, voilà, je suis un sportif et j'avais envie de m'essayer à d'autres sports et on m'a présenté un club pour faire de l'aviron. Je dis pourquoi pas, c'est rigolo, ne pas voir et ramer, pourquoi pas. C'est vrai que.
Et je reviens. On emploie souvent le terme ramer pour toucher, ouais. Nous autres.
Et alors je reviens au mot la galère, parce que c'était vraiment la galère. Et alors on m'a fait ramer, et c'était affreux parce qu'il faut, être synchro dans les mouvements. On était à un bateau de 4 rameurs et un barreur. Donc le barreur, je ne vous cache pas qu'il y voyait bien. Mais les 4 rameurs, ils ne voyaient rien du tout. Et alors, c'était intéressant, on va dire. Intéressant et bah, c'était une expérience. Mais ce que j'avais oublié, c'était que c'était de la rame en bateau, mais surtout en mer. Et quand on est sorti lors des sélections, pré-sélections des championnats de France, il y avait du Mistral. Et alors, le bateau, il est très fin, vous savez. J'avais l'impression d'avoir les fesses dans l'eau. Mais c'est vraiment un sport particulier. Donc, on a fait 2 fois les présélections pour le championnat de France. Et donc, là, à partir de là, j'ai arrêté parce que je crois que l'aviron et moi, on n'est pas trop d'accord. Et je continuais dans le sport à pied.
Tu préfères être sur le plancher des vaches.
On va dire ça, quoique le plancher. En fait, oui.
Oui, ben on va faire une petite nouvelle pause, peut-être, pour se redonner de quoi raconter après.
Oui, avec Serge Ujeroyo. Et une chanson en espagnol, Una música bella sobre una mar de niente.
Et ça veut dire quoi, s'il vous plaît ?
Ah, je ne sais pas. Niente, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Bonne question, moi non plus d'ailleurs.
Ça voudrait dire une belle musique sur une mer, mais après, je ne connais pas
la signification.
L'adjectif, oui.
Non, si par hasard, il y a un auditeur qui connaît, ben, il peut peut-être nous le dire.
L-I-A-N-T-E-S.
Alors par contre, si effectivement il y a des auditeurs qui veulent rejoindre l'antenne, c'est au 04 91 08 28 15 et c'est jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, merci à vos appels.
una música baila sobre un mar de llantos. Una danza nos mueve y extraña bambolea. Se despierta la tierra bajo mil banderillas. Vamos a levantar el puño hacia el sol. Le canto al humano con todo el temporal. Cada día que nace me llega una señal. Alegrías y penas en el horno del mundo. Unos gritos de amores y algún dolor mudo. Europa se ahoga, pisada por la historia. Cositas escondidas nos quieren arañar. Dolores militares, discurso paisano, machacan el destino y nuestras esperanzas. Mis ojos van mirando una tierra lejana. Latinoamericanos dibujan su camino. La vida rueda igual que un arroyo de lava. En las pampas heladas, mañanitas de fuego. Extranjero en esta decadencia, soy una bala loca sin pólvora y sola, y canto y voceo esta ansiedad terrible de un retorno a Chile que nunca conocí. Música baila sobre un mar de llantos. Una danza nos mueve y extraña bambolea. Se despierta la tierra bajo mil banderillas. Vamos a levantar el puño hacia el sol. El puñal de la sonrisa y los balazos de los besos.
Serge Hucheroyo, donc qu'on vous avait présenté en français dans deux émissions précédentes. Et cette fois-ci, donc, c'est un disque où il y a uniquement des chansons espagnoles, et notamment des chansons révolutionnaires du temps de la République espagnole. Donc, et ça, je ne sais pas si c'est un chant de même genre.
Non, c'est tout à fait.
C'est plutôt une chanson plus tranquille, moins engagée, on va dire.
La variété, disons.
Voilà, je ne sais plus le titre du disque, tu l'as, toi ?
Non.
Non, bon, bah alors il faudra que vous recherchiez si ça vous intéresse.
Puis éventuellement, on pourra le mettre sur le site.
Oui, oui, c'est vrai que le site, on l'a assez peu travaillé et il faudrait vraiment s'en préoccuper.
Il y a vraiment un titre d'album,
Si, il y a un titre d'album, ça je m'en souviens, mais c'est sur. En fait, si vous cherchez vraiment discographie Serge Hucheroyo, vous trouverez tout ce qui le concerne. Il a un site perso très bien fait. et facilement accessible aussi. Donc voilà, voilà. On reprend notre conversation avec nos invités. Hors antenne, on a parlé un petit peu de, des dangers hein, du désert, parce que c'est pas si évident que ça. On pourrait croire que le désert, c'est du sable en permanence, et que si on se casse la figure, bah, ma foi, on se relèvera, on tombe sur le sable, c'est pas très grave. En fait, c'est pas si simple que ça. Hein. N'est-ce pas ? Vous vous êtes déjà entraîné dans des conditions à peu près similaires à celles que vous allez rencontrer ou pas ?
À vrai dire, une ou deux fois par semaine, nous allons au Pic de l'Étoile. C'est une route qui monte bien, avec beaucoup de cailloux, des trous, des bosses. C'est vraiment un chemin difficile. Donc là, c'est pour l'instant, on en est au début de travailler sur le terrain escarpé. Après, on travaillera un petit peu sur le sable, bien sûr, et un petit peu dans la neige aussi, pour le mou. Mais il faut savoir que dans le désert, tout le terrain ne sera pas que du sable. Il y aura des cailloux, il y aura des terrains plus durs, plus souples, il y aura des montées, il y aura des dunes assez importantes, il y a des descentes qui s'effectuent en se tenant avec une main courante, parce qu'ils ont prévu une main courante sur certains endroits, passages difficiles. Et le problème, c'est que, étant donné qu'on a un sac à dos assez lourd, on va dire, dans une descente...
Ouais, 12 kilos, quand même.
12 kilos, oui. C'est dans les descentes et dans les côtes, ça va impacter sur la course, sur les mouvements, surtout. Et c'est vrai que c'est pas trop évident, effectivement.
Et vous n'êtes pas assisté du tout, là, au point de vue de l'autonomie complète pendant 6 jours ?
Je suis assisté par mes guides.
Oui, mais non, sinon, non, c'est, non, au niveau aucune, course...
Au niveau course, on est livré à nous-mêmes, entre parenthèses, donc avec notre nourriture dans le sac, etc., tout le matériel. Donc on est vraiment tout seul.
Mais il y a quand même la sécurité, parce que dans le désert sud-marocain, c'est quand même, il peut y avoir des petits coups de main de temps en temps. Il y a des gens qui sont assez indépendantistes par là.
Oui.
Vous craignez pas qu'il y ait des soucis de ce genre-là des...
Bon, je
vous
pense
êtes partis
que...
quand même
oui,
dans des pays pas évidents.
Voilà, c'est sûr que dans ces pays-là, en ce moment, dans le Maghreb hein, en général, on va dire ça comme ça, il y a des gens qui sont un petit peu hostiles à certaines façons de penser, et puis bien, ils ont leur façon de penser, et donc voilà, ils utilisent des otages, hein, il faut dire le mot, ça les aide à se promouvoir, à se faire valoir, et donc c'est vrai que ben, c'est 1000 coureurs qui sont répartis dans le désert, et ben, c'est une tentation importante, qui est une tentation bien importante, enfin bon, et donc je pense que quand même les personnes qui sont dans ce projet-là, qui organisent, les organisateurs du Marathon des Sables prévoient déjà, ils ont besoin d'autorisation avec les autorités marocaines, et donc entre les autorités marocaines et les organisateurs, avant le départ quand même, je pense, ont pris des précautions, et après, bon ben voilà, il y a toujours des bandes un petit peu rebelles qui...
Après, il y a quand même des points où vous allez devoir vous rassembler pour... c'est pas une course comme ça, vous n'êtes pas tout à fait lâché dans le désert
oui,
sans aucune...
Voilà, on a des points de ralliement.
Des points de bivouac, toute façon.
Oui, en plus des points de bivouac, il y aura des points de ralliement où on va pointer, hein, tout simplement, hein, et montrer qu'on ne s'est pas perdu. Et puis, de toute façon, c'est un intérêt pour nous parce que on va pouvoir boire. Et je pense que ça va être très important. Je pense que ça va être très attendu de notre part, en tout cas. Et on y fera très attention parce que je pense que l'eau va se faire très rare.
Oui, puis dans le désert, le grand souci, c'est le sable quand même, et qui rentre partout, qui s'infiltre partout.
Oui, tout à fait. Alors donc,
quel plan qu'on vous a donné pour justement un peu contrecarrer ça ?
Alors on a des chaussures, enfin on nous a conseillé de prendre des chaussures avec des guêtres intégrées. Donc c'est la marque, je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque.
Non.
Bon, alors je ne dirai rien, c'est une certaine marque, et qui fait cette chaussure, qui fait ces chaussures. Là, et donc ça monte à peu près jusqu'aux chevilles pour nous protéger du sable.
Les infiltrations dans,
voilà,
les, dans les chaussettes.
Je pense que ça doit rentrer un peu, mais certainement moins que les baskets avec lesquelles on court normalement. Hein. Et puis donc après il y a d'autres matériels, on est obligé d'avoir un couteau. parce que pour pouvoir se débrouiller, il nous oblige à avoir un couteau, un miroir pour faire avec le soleil, faire des appels. De ce que je me souviens des
aspire-venin.
Un aspire-venin, oui, parce que
oui,
y a des mauvaises
bêtes. Vous rencontriez des scorpions et des choses de ce genre.
Voilà. Et après, bon, aussi, il faut avoir une casquette avec des protections. Là, c'est une espèce de casquette, je ne sais plus comment on appelle ça.
À la légionnaire.
Oui, à la légionnaire ou ça aérienne. Là. Ils appellent ça, je crois, ça aérienne. Et donc, pour protéger du cou, des coups de soleil au niveau du cou et des oreilles.
Ouais. Et au niveau de nourriture ?
Alors là, c'est de la,
la parole.
Oui. Nourriture lyophilisée. Donc moi, j'aime pas trop ça. Donc déjà, je commence à avoir plutôt de la semoule, des pâtes chinoises. Voilà. Bon, apparemment, il paraît que il y a des choses pas trop mal. Bon, ça se modernise, hein, s'améliore, on va dire. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir que j'aille goûter pour voir, parce que j'ai un estomac et des intestins qui sont très fragiles. Et donc, je voudrais pas embêter mon ami Gérard
avec des petits, puis surtout des petits soucis de ce genre en plein désert, c'est pas terrible.
On est deux, alors, donc. Mais le couscous, c'est excellent. Lyophilisé, il est excellent avec des petites graines.
Voilà, il a goûté déjà.
J'ai déjà goûté.
Ah oui, parce que vous êtes déjà entraîné à goûter ce que vous allez manger.
Et oui, parce que l'entraînement, c'est vrai qu'il y a le physique, il y a le mental, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi la nourriture. Donc il faut s'habituer, entre guillemets, au lyophilisé. Il faut s'habituer à ne pas manger
n'importe quoi.
Et puis, on ne fera qu'un repas, entre parenthèses, à l'arrivée, parce que pendant la course, il n'est pas question de faire un feu dans le désert. Alors, parce que le lyophilisé, il faut que l'eau soit chaude. Hein. Donc, et s'il y a une tempête de sable, alors là, on saute et on mange que des barres de céréales ou des petits morceaux de sucre.
T'es quand même un peu ascétique hein, comme histoire. Hein. Vous n'allez pas faire de la méditation dans le désert, mais quand même, vous allez. Vous n'y allez pas en touriste non plus. Hein.
Au niveau des, quand même, de, bon, des risques, justement, vous en parliez de tirs venin, au niveau de, bon, des risques de rencontres avec des. Bon, des venimeux, mais enfin, vraiment dangereux. Comment ça se passe?
On vous dira quand ça arrivera.
Il y a sans doute, je pense, un moyen de provoquer un rapatriement s'il y a vraiment un souci, quoi.
Oui, il faut savoir, alors juste pour venir au financement, il faut savoir que quand même cette course coûte par coureur 3 000 €, y compris dedans, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est justement quand il y a un souci, un rapatriement en urgence en cas de problématique important au niveau des coureurs. Donc voilà, hein, c'est quand même une organisation qui s'est pas montée comme ça. Hein, ça fait, je sais plus combien d'années, ça a la 15e.
C'est au niveau du contact, quoi, je veux dire.
Là, on n'est pas encore fixé sur tous les détails vraiment de la course, mais je pense qu'ils auront prévu des fusées ou des balises.
Il y a des chances qu'ils ont prévu quelque chose qui permet de.
Mais il est vrai qu'il y a des avions qui vont tourner, des hélicos, ils vont pas nous lâcher comme ça. Certes, on sera seul, mais quand même d'en haut, ils nous surveilleront, je pense.
Et je pense, on aura aussi, je sais plus si on était en. On aura des fusées, il me semble bien qu'on
C'est comme un peu les navigateurs quand ils partent en autonomie sur l'Atlantique. Ils sont pas tout à fait. Oui, ils sont autonomes, ils doivent se débrouiller sans assistance, mais en même temps, s'ils ont vraiment un problème, on va aller les secourir, on va pas les laisser
mais même,
comme ça.
Voilà, mais même avec assistance, puisque moi j'ai déjà fait 2 traversées, et on est obligé nous oblige à prendre donc le miroir, là, que je vous ai dit tout à l'heure, le défuser. Et des gilets de sécurité normal puisqu'on est sur l'eau.
Oui, toi, tu as fait des courses transatlantiques.
Moi, j'ai fait
transatlantique.
J'ai fait deux, pas transatlantique.
Transméditerranée, plutôt.
Je suis pas allée très loin, mais j'ai quand même traversé 2 fois Marseille, la Corse.
Oui, mais transméditerranée.
Ça fait 240 km en moyenne. Et toujours pour la cause du handicap. Et donc c'est comme ça que l'association est née d'ailleurs.
Il va y avoir apparemment d'autres associations qui vont aussi, qui font la même chose que la vôtre, en fait, sur cette course-là. Vous n'êtes pas les seuls à faire de la solidarité. Si...
Oui, alors sur le niveau de la solidarité, on ne sera pas tous les seuls. Seuls à avoir une personne non-voyante, on sera les seuls. Accompagné de 6 gazelles, je pense qu'on sera les seuls. On va bien rigoler,
je pense. Je pense que je vais être le seul aussi.
Et mais c'est vrai qu'on peut parler. Alors, j'ai pas
pris... 1 pour 6, ouais, c'est pas mal.
C'est un rapport, 1 pour 6.
J'ai pas pris connaissance des autres associations, mais ce sont, c'est vrai, des associations qui œuvrent pour des jeunes défavorisés, aussi pour, parce qu'on est dans les pays du Maghreb, donc pour des aides au niveau de l'école, de la scolarité. Voilà.
Et puis, c'est quand même une course internationale, donc beaucoup de pays seront représentés.
Oui.
Il n'y a pas que des Français, il n'y a pas que des Marseillais.
Australiens, Chinois, Japonais.
Bon, il y aura pas mal de pays représentés.
Et au niveau handicap, qu'est-ce qu'il va y avoir comme handicap présent sur la course?
Alors, normalement, je pense qu'il n'y aura que Gérard. Il y a eu une association qui devait... Ça, alors, j'ai plus entendu parler de cette association. On verra bien si elle va venir. C'est une association qui s'occupait d'autistes, qui devait venir avec des autistes, des enfants autistes. Et ils devaient faire des relais, apparemment. Alors, bon, je ne sais pas où ça en est, mais voilà, ça aurait été intéressant. Mais je pense que c'est peut-être un peu compliqué quand même, hein, parce que le désert des enfants, faire de la course à pied sous le soleil, c'est 40 à 50 degrés avec un sac à dos, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, je ne sais pas, on
si
est beaucoup
faisable,
à la recherche.
En tout cas, ça demande certainement une organisation considérable.
L'autisme, des fois, c'est aussi
du comportement,
des comportements assez imprévisibles.
Oui,
hein.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon, on, de toute façon, on vous en dira plus ou la prochaine fois avant le départ ou après notre arrivée, on vous en dira plus.
Superbe.
On va passer à notre avant-dernière pause avec Monsieur Bernard Lavillier.
Et préface, encore pour souligner, disons, la fête, l'année
2013.
Et un petit peu, disons, cette fois-ci, à ce qu'on va présenter au point de vue culturel, justement.
Laisse-nous écouter, voilà. Puis on verra un petit peu ce qu'on peut en penser après.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qu'il ne faut pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés à la privée de certains autres me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit appartenir à une caste, à un parti ou au tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rudebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme du savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui dament le plomb au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le ver doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
Voilà, c'était Bernard Lavilliers avec préface.
Oui, hein, cette,
un texte peu connu.
Non, je ne connaissais pas du tout cette volonté hein, d'être libre d'une poésie qui soit effectivement qui soit libre, qui ne soit pas coincée par les capitaux et par tout ça. Un art qui soit comme ça, qui soit... Oui. Ça fait réfléchir, en tout cas. C'est un texte qui fait réfléchir. Ça, c'est sûr. Bon, ben, en temps, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre périple, là aussi, d'être libre, justement. Mais bon, je suppose qu'on ne l'est pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des sponsors et des... On ne vous a pas demandé un peu d'afficher des marques et de...
Oui, alors on a, heureusement d'ailleurs qu'il y a des sponsors hein, qui sont là, parce que le projet pour amener 6 personnes, c'est quand même 18 000 euros.
Donc, ça se trouve pas quand même comme ça en voilà, claquant des doigts.
Plus, sans compter, là c'est juste les, l'inscription, hein. Après il y a tout le matériel et puis l'alimentaire. Donc déjà 18 000 euros, c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai, on a trouvé quelques partenaires, dont AG2R La Mondiale, Accor, Isostar, Orea, et puis le dernier, la Corrida de Noël. C'est une course qui se fait tous les ans à Noël à Paris. Et donc c'est une grosse course, une grosse structure un petit peu comme chez nous, le Marseille Cassis, et qui donc récolte de l'argent et redistribue aux associations qui ont des projets intéressants, et puis aussi leur permettent de venir sur ils ont la veille de la course, il y a des stands, un village, le village de la corrida, où les associations peuvent venir se faire découvrir et en même temps vendre. Nous on a vendu des bibelots, des buffles. Alors les buffles, c'est des espèces de foulards qui on peut les utiliser comme cache-colle, comme cagoule, comme voilà, et ils sont tamponnés de Je cours pour toi, ils sont roses, sont très jolies, un peu de noir parce qu'on a pensé un peu à Gérard, hein, qui était un garçon. Autrement, il va nous faire un petit caca nerveux. Hein.
Et vous en vendez encore, éventuellement ?
Oui, oui, alors on en vend. Hein, je crois que c'est 10 euros, si je ne me trompe pas. On a vendu aussi à 1 euro le petit bracelet là, qui est très à la mode. Un petit bracelet alors de toutes les couleurs hein, en tissu. Tamponné de Je cours pour toi, il y avait toutes les couleurs, du rose évidemment, puisque nous sommes des gazelles.
Du noir,
parce qu'il y a Gérard, du vert. Voilà, il y avait quelques couleurs. C'est parti, m'a-t-on dit, assez vite. Donc, ben voilà, mais on en a encore en stock. Hein. On vend, je vous dis, le petit bracelet à 1 euro. Il y en a qui l'ont mis à leur. Qui l'ont attaché aux sucettes de leurs enfants, et c'est fait très joli d'ailleurs.
Voilà, donc on peut vous contacter comment si des fois on veut un peu vous soutenir ?
Alors oui, alors pour nous contacter, donc pour Je cours pour toi, c'est donc on a une adresse email, je cours pour toi, tout attaché, jecourspourtoi@hotmail.fr. Après, nous avons un blog, Je cours pour toi, canalblog.com. Et le, sur ce blog, vous pouvez aussi faire des dons. Hein, et puis, on a, bien sûr, parce qu'on est moderne, donc on a Facebook.
Bien sûr.
Voilà.
Une page Facebook.
Voilà, on a une
page... Facebook, comme
face on dit. Facebook, voilà, Facebook.
Il y a un petit sketch, d'ailleurs, sur ce sujet. On vous le fera écouter peut-être la prochaine fois, parce que je l'avais trouvé sur YouTube. J'avais trouvé ça assez sympa. En fait, bon, c'est une collègue qui me l'avait fait découvrir.
Et puis, je peux donner l'adresse aussi, parce que ben, s'il y en a qui veulent, ben, qui n'ont pas le Je cours pour toi, qui ne sont pas très modernes, qui n'ont pas la technologie, voilà, Internet et tout ça, ils écrivent à Je cours pour toi, 332 avenue du Maréchal Juin, 92 100, Boulogne-Billancourt. Voilà. Et après, pour le reste, les numéros de téléphone, si vous voulez, je peux vous donner mon numéro de téléphone pour joindre
Oui, mais je vais peut-être noter comme ça. Ben, quoique ton portable, je l'avais. Donc, oui. On le mettra. Par contre, je vais reprendre l'adresse sur mon petit bloc-notes tout à l'heure. D'accord. Comme ça, au moins, je pourrai le mettre directement sur le site sans réécouter toute l'émission, que je n'aurai pas d'ailleurs avant que Céline me la donne. parce qu'en fait, l'émission est enregistrée, puis ensuite, elle est disponible sur le site de Radio Galère. Et elle sera aussi, et j'espère que cette année, on va quand même faire un travail un peu plus correct avec le site, elle sera sur le site de la Luciole aussi, une fois qu'elle est passée. Donc, dans le mois qui vient, en général, on la dépose. Et puis voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sinon, vous souhaitez bon courage et bonne route.
Merci. Ben, voilà. Bon vent, hein, parce que moi, je viens de l'aviron.
Oui, c'est ça. Alors, David Sourire, je pense qu'on en reparlera, hein, parce que oui. Je crois que vous allez avoir pas mal d'événements
dans l'année
et puis oui. Notamment l'ouverture de cette base nautique.
Oui, allié, mais bon, il y aura un projet particulier, si vous voulez,
on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et puis, que dire de plus au point de vue information très rapidement? Ben, on a été informé du loto qu'organise Montriant, oui, qui est un pôle d'établissement qui reçoit des personnes handicapées. Il y a un ESAT, il y a un foyer de vie, il y a un IME également. C'est donc samedi 19 janvier et c'est
à 14h.
À 14h30. Et c'est à la salle du CAC de Saint-Joseph. C'est donc à la mairie du 13e, 14e, à l'avenue Paul Cox, mairie 13-14. Nous, on a demandé Mobimétropole, on va essayer d'y aller. Pourquoi pas, parce qu'on aime bien jouer.
Sinon, des bus, non?
Oui. Y a peut-être des bus aussi qui desservent. Hein, c'est la mairie du 13-14. Donc, c'est samedi 19.
Vous auriez une idée du numéro?
Ah, je pense que ça va tourner entre le 32 et le 35, mais...
D'accord, ok.
Oui, moi, je c'est pas bien parce que moi, je me déplace souvent en voiture, alors donc les bus et tout ça, c'est pas mon...
Dans les autres infos, nous avons aussi été informés du concours de braille qu'organise tous les ans l'association Valentin et Huy. Et donc, ce concours qui s'appelle le Poinçon Magique se déroulera le 20 mars 2013, c'est loin. Mais en fait, c'est assez proche parce qu'il faut s'inscrire auparavant et que les inscriptions sont closes. Enfin, il faut les envoyer à Paris avant le 10 février. Donc, c'est pour ça que ceux que ça peut intéresser, concourir en braille, pour ceux qui viennent d'apprendre ou pour ceux qui sont des braillistes plus confirmés, il faut se renseigner auprès de l'association Valentin et Huy, donc au 04 91 37 47 90 l'après-midi. Et les inscriptions peuvent se prendre par téléphone. Éventuellement, il y a quelques informations à fournir en fait au siège parisien pour pouvoir concourir. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi notre partenaire avec lequel nous étions partis au Sénégal, ICD Afrique, qui recherche un stagiaire assez diplômé puisqu'il s'agit d'un bac plus 5 en tourisme. Et ces gens, donc cette stagiaire ce stagiaire partirait 4 ou 5 mois À partir du mois d'avril, dans la région de Ziguinchor, c'est en Casamance, au Sénégal. Et donc, il partirait développer des projets touristiques durables là-bas. Et donc, si les gens veulent se renseigner, c'est au 04 91 48 54 23, 04 91 48 54 23, ou sur le site d'ICD www.icd-afrique.org. Et je crois que c'est tout pour les informations. Oui, c'est tout. Voilà, parce que comme on avait des invités, j'en ai pas pris beaucoup plus. Et puis, de toute façon, c'est l'heure de finir. Donc, on vous dit au mois prochain. Et on vous passe en finale une pause jazz, comme souvent, avec...
Avec Weather Report et The Orphan.
Voilà, voilà, au mois prochain.
The Orphan, pardon.
La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Sylvie.